VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Jean-Roch Lebihan à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 17 novembre 2023. Au Libéria, Joseph Boakai a une courte avance sur le sortant George Weah après le dépouillement des votes dans plus de 99% des bureaux. Au Sénégal, la Cour suprême annule le jugement du tribunal de Ziguinchor qui remettait à l'opposant Sonko dans la course à la présidentielle.
Et c'est une décision défavorable au camp d'Ousmane Sonko qui a été finalement prise par la Cour.
Nous retrouverons dans un instant notre correspondant à Dakar, à Madagascar. Le président André Rajoelina recueille plus de 70% des suffrages selon les premiers résultats partiels de la commission électorale. Israël a approuvé aujourd'hui l'entrée de 2 camions-citernes par jour dans la bande de Gaza pour aider à répondre aux besoins en carburant des Nations Unies. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Au Libéria, le vétéran de la politique Joseph Boakai a une très courte avance sur le président sortant George Weah dans la course à la présidence après le dépouillement des votes dans plus de 99% des bureaux de vote. Le point avec Dili Diko.
Joseph Boakai a obtenu 50,89% des suffrages et George Weah 49,11% après le décompte dans 99,58% des bureaux, a dit devant la presse Davidetta Brown Lansana, présidente de la commission électorale. Le résultat final est suspendu à 25 bureaux dont le nombre de votants n'est pas connu. Mais l'expert Abdullah Kiatamba a jugé presque impossible pour M. Weah de remonter son retard. Selon lui, la réalité à ce stade, c'est qu'étant donné les chiffres disponibles, il est littéralement impossible d'inverser la tendance. Pour y arriver, il faudrait que M. Weah obtienne dans les bureaux restants des chiffres 4 ou 5 fois supérieurs à la tendance actuelle, a-t-il dit. Les observateurs de l'Union européenne et de la CEDEAO ont félicité le Libéria pour la tenue largement pacifique du deuxième tour de la présidentielle. Les 2 missions d'observation ont appelé les candidats et leurs partisans à faire preuve de retenue et à attendre dans le calme l'annonce des résultats définitifs.
La Cour suprême du Sénégal a cassé aujourd'hui un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024. La Cour envoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit réjugée. Notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou, nous en dit plus.
La Cour suprême vient à l'instant de terminer ses travaux et c'est une décision défavorable au camp d'Ousmane Sonko qui a été finalement prise par la Cour puisqu'il s'attendait à ce qu'il suive le juge de Ziguinchor qui avait ordonné la réintégration du leader de l'ex-parti passé dans les listes électorales. Mais finalement, la Cour suprême a décidé de remettre la patate chaude au tribunal de grande instance de Dakar qui va maintenant décider, juger si oui ou non le candidat déclaré de la coalition Yahya Askani, Ousmane Sonko, pourra ou non participer à l'élection présidentielle du 25 février. Autant vous dire que la nouvelle a eu un effet de choc ici au niveau de ses partisans qui n'ont pas caché leur colère au sortir du tribunal. Et là, ils pensent que c'est une subterfuge de la part du camp au pouvoir pour tenter de gagner du temps pour justement ne pas permettre à l'opposant actuellement en prison de ne pas participer à l'élection présidentielle. En tout cas, la colère reste grande ici de la part des partisans d'Ousmane Sonko. Et pour le prouver, certains s'en sont même pris à un avocat de l'État, autant vous dire la pression qui a régné cet après-midi à Dakar.
Alors donc, dans ce jeu de ping-pong, Johnson, les délais pourraient totalement jouer en défaveur du leader du PASTEF, c'est ça?
C'est ça, effectivement. Et c'est ce que ses partisans ont souligné ici à leur sortie du tribunal, comme quoi Ousmane Sonko ne devrait pas être dans les délais pour pouvoir non seulement collecter les parrainages, mais également pouvoir participer à l'élection présidentielle du 25 février prochain.
En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit Suisse, a déposé ce vendredi sa candidature à la présidence du PDCI, l'un des principaux partis d'opposition. Tidjane Thiam, âgé de 61 ans, a été mené sous l'ancien président Henri Konan-Bédier et il se présente contre 4 autres candidats lors des élections du 16 décembre. Le vainqueur a de fortes chances de devenir le candidat du PDCI pour le scrutin présidentiel de 2025. En République démocratique du Congo, les militaires militants de la société civile ont annoncé aujourd'hui à Kinshasa une mission d'observation électorale autofinancée, disant craindre des fraudes lors de la présidentielle du 20 décembre. Au cours d'une conférence de presse, Mino Bopomi, le chef de cette nouvelle mission électorale citoyenne baptisée Capita, a précisé qu'au moins 1300 observateurs seront déployés pour surveiller 19 000 bureaux de vote à travers le pays. À Madagascar, le dépouillement de l'élection présidentielle tenue hier a débuté. Le président sortant, André Rajoel, recueille plus de 70% des suffrages exprimés, selon les premiers résultats partiels de la commission électorale. Les précisions avec Nani Talani.
Ces premiers résultats, très partiels, concernent plus de 70% des suffrages exprimés sur près de 9% des bureaux de vote, selon des résultats mis en ligne par la commission électorale. Le scrutin s'est tenu dans un climat de vive tension entre le camp du président sortant et un collectif de 10 candidats de l'opposition qui ont dénoncé des irrégularités et avaient appelé les quelques 11 millions d'inscrits à bouder une élection jouée d'avance. Avec un taux d'abstention à environ 60% au plus fort dans l'histoire de Madagascar, dénonce l'opposition, le collectif a d'ores et déjà déclaré ne pas reconnaître le scrutin. Il a dénoncé des manœuvres du pouvoir pour reconduire M. André Rajoel. Ce dernier s'est dit confiant en la maturité et la sagesse des Malgaches. Les résultats préliminaires du premier tour doivent être connus dans une semaine. Un second tour, si nécessaire, est prévu le 20 décembre.
L'ONU a demandé aujourd'hui une enquête sur une centaine de meurtres interethniques dans la région soudanaise du Darfour. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a indiqué que selon de premières informations recueillies auprès de survivants et témoins, des membres de la tribu non-arabe Massalite ont vécu 6 jours de terreur au début du mois. La Cour pénale internationale a déclaré ce vendredi qu'elle mettait fin à la procédure engagée contre Vincent Auti, l'ancien chef en second de l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, estimant que le rebelle est décédé. Des déserteurs de la LRA ont confirmé que dès 2007, le chef de la RRA, Joseph Kony, a exécuté Auti, qui avait joué un rôle déterminant dans les pourparlers de paix. Harare, la capitale du Zimbabwe, a été déclarée en état d'urgence en raison d'une résurgence du choléra qui a déjà fait 51 morts et infecté plus de 7000 personnes dans le pays, a annoncé aujourd'hui le maire de la ville d'Harare.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les livraisons d'aide vers la bande de Gaza ont été interrompues faute de carburant dans le territoire palestinien, affirme l'ONU, qui craint un risque immédiat de famine pour la population prise au piège des combats entre Israël et le Hamas. Jacques Aristide.
L'aide internationale à Gaza arrive au compte-goutte par camion depuis l'Égypte, mais pour le deuxième jour consécutif, aucune aide n'a pu entrer ce vendredi à Gaza via le terminal de Rafah, selon les Nations Unies. Le cabinet de guerre israélien indique avoir autorisé l'entrée quotidienne de 2 camions de carburant à Gaza pour les besoins de l'ONU à la demande des États-Unis. Pour sa part, Chypre déclare être sur le point de conclure un accord avec Israël pour ouvrir un couloir d'aide humanitaire entre l'île méditerranéenne et la bande de Gaza. La situation est catastrophique dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza, d'après son patron Mohamed Abou Salmiya. L'armée israélienne a indiqué qu'elle poursuivait ses fouilles dans l'établissement à la recherche de repères présumés des combattants du Hamas. Les tensions sont aussi vives en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a dit avoir tué 5 terroristes à Jenin, bastion des mouvements armés palestiniens. Le chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, a souligné aujourd'hui le droit à l'existence d'Israël lors de son entretien à Berlin avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui a récemment paru remettre en cause la légitimité de l'État hébreu.
L'Ukraine a revendiqué aujourd'hui la conquête de positions sur la rive du Dniepr, occupée par les Russes, après des mois d'une contre-offensive décevante, tout en admettant que les combats y sont violents et toujours en cours. Il s'agit du premier succès revendiqué par l'Ukraine dans sa contre-offensive depuis la reprise du village de Robotyne en août dans la région méridionale de Zaporijjia. La plus haute juridiction de l'ONU a ordonné aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de permettre un retour en toute sécurité des habitants vers le territoire disputé du Haut-Karabakh. Saba, dont Bakou s'est emparé en septembre dernier lors d'une offensive éclair. À la suite de l'offensive azerbaïdjanaise, la quasi-totalité de la population arménienne avait quitté la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Michel Joseph.
La société minière chinoise CMOC dit s'attendre à ce que les problèmes d'approvisionnement en électricité en RDC restent une contrainte pour l'expansion de sa production de cobalt et de cuivre dans le pays. La CMOC dit avoir cherché à exploiter des projets hydroélectriques et d'autres nouvelles sources d'énergie, mais qu'il n'y aura pas d'amélioration majeure dans un court laps de temps. Le Congo-Kinshasa est confronté à des pénuries d'électricité et à des difficultés d'acheminement des métaux vers les ports d'Afrique du Sud, de Tanzanie et de Namibie en vue de leur exportation. Le Kenya pourrait perdre jusqu'à 7,25% de son PIB à cause du changement climatique, annonce la Banque mondiale. Nairobi aura besoin de 62 milliards de dollars d'ici 2030 pour adapter son économie aux défis climatiques. Cela nécessitera des ressources nationales et l'augmentation des investissements privés compatibles avec le climat dans les secteurs tels que l'alimentation du bétail, le tourisme, la mobilité électronique et l'énergie verte, avance la Banque mondiale. Le Burkina Faso et la Somalie recevront bientôt des céréales de la Russie qui annonce avoir commencé à expédier gratuitement des céréales à 6 pays africains pour un total de 200 000 tonnes. Dans une déclaration faite ce vendredi, le ministre russe de l'Agriculture précise que des navires à destination du Burkina Faso et de la Somalie ont déjà quitté les ports russes et que des livraisons supplémentaires à destination de la RCA, du Mali, de l'Érythrée et du Zimbabwe suivront bientôt.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous.
Coupe du monde FIFA 2026, plusieurs rencontres africaines sont à l'ordre du jour ce vendredi et ce week-end.
Effectivement, sont prévues ce vendredi Guinée-Ouganda au Maroc, Eswatini-Libye en Afrique du Sud, Libéria-Malawi au Libéria, Ghana-Madagascar au Ghana, Comores-RCA au Comores, Zambie-Congo-Brazzaville en Zambie, Côte d'Ivoire-Seychelles en Côte d'Ivoire, Mali-Tchad au Mali, Tunisie-Sao Tomé et Principe en Tunisie, Cameroun-Maurice au Cameroun, Burkina Faso-Guinée-Bissau au Maroc. Demain samedi 18 novembre, les rencontres au programme sont les suivantes. Afrique du Sud-Bénin en Afrique du Sud, Niger-Tanzanie au Maroc, Sénégal-Sud-Soudan au Sénégal. Pour ce qui est des matchs au programme dimanche 19 novembre, nous aurons Zimbabwe-Nigeria au Rwanda, Mozambique-Algérie au Mozambique, Burundi-Gabon en Tanzanie, Sierra Leone, Égypte au Libéria et enfin Soudan RDC en Libye.
La FIFA a décidé de diffuser ses matchs de qualification de la CAF FIFA 2026.
C'est vraiment une excellente nouvelle pour les supporters qui peuvent désormais profiter gratuitement de la diffusion en direct sur FIFA Plus de ces matchs, notamment les deux premières journées se jouent du 15 au 21 novembre. Mais le contenu sera bloqué dans plusieurs pays où des diffuseurs proposent déjà le tournoi. En Afrique subsaharienne, on pourra suivre ces matchs dans 10 pays. Le Bénin, le Burundi, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Malawi, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, l'Ouganda et le Zimbabwe. Rappelons que 9 équipes africaines vont participer à la Coupe du Monde 2026. Une autre participera au tournoi de barrage, puisque pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde accueillera 48 équipes.
On signale un changement d'heure du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF prévue ce dimanche en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023 a été avancé à 17h locale. Elle opposera les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, championnes de 2021, au Sporting Club Casablanca du Maroc, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, ce dimanche 19 novembre. Le match pour la troisième place est prévu demain samedi à 20h locale, toujours à Korogo.
Page de sport VO Afrique, signée Nani Talani. êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président Joe Biden a souligné jeudi la force de la croissance économique américaine pour tenter de convaincre 19 économies de la région Asie-Pacifique de s'associer aux États-Unis. Le dirigeant chinois a fait de même cette semaine lors de la réunion des dirigeants asiatiques et des grands chefs d'entreprise. Le monde des affaires s'interroge, pourquoi pas les deux? Un reportage d'Anita Powell, le récit est de Blanche Sanou.
Pour ces 19 économies du Pacifique et d'Asie dans l'orbite des États-Unis et de la Chine, le sommet de l'APEC est l'occasion de voir les présentations des deux meilleurs vendeurs de ces nations. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisque le président Joe Biden, hôte du sommet, a vanté jeudi la croissance économique rapide de son pays auprès des chefs d'entreprise et les résultats obtenus lorsque les gouvernements s'associent aux États-Unis. Joe Biden, président des États-Unis.
Pendant des décennies, l'engagement durable des États-Unis dans la région a été un tremplin ayant permis la croissance, une croissance transformatrice. Et grâce à la libre circulation des échanges, des millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, cette relation va dans les deux sens. Les États-Unis restent essentiels pour l'avenir de la région et la région est plus vitale que jamais pour les États-Unis d'Amérique.
Le président chinois Xi Jinping a rappelé à chaque délégation qu'il a rencontré le statut de partenaire commercial majeur de la Chine. Il leur a assuré qu'il ne souhaitait pas faire la guerre et a apaisé les inquiétudes des investisseurs face au durcissement des règles de sécurité et aux ambitions militaires croissantes de Pékin. Xi Jinping, président chinois.
La Chine n'a pas l'intention de défier ou de remplacer les États-Unis. Au contraire, nous sommes heureux de voir les États-Unis confiants, ouverts et prospères. De même, les États-Unis ne devraient pas parier contre la Chine ou interférer dans les affaires intérieures chinoises.
Le monde des affaires observe ces campagnes et s'interroge. Pourquoi ne pas avoir les deux? Jane Fraser est PDG de la grande banque mondiale Citigroup.
Le découplage des économies dominantes du monde n'est ni possible ni prudent. Le dérisquage, nous préférons l'appeler diversification, doit devenir le mot d'ordre. Nous sommes bien mieux servis que si nous nous concentrons sur la promotion de la collaboration inter- et intra-régionale.
Les chefs d'entreprise de la région Asie-Pacifique affirment avoir bénéficié de la concurrence entre les deux superpuissances. Le directeur de la Chambre de commerce américaine de Malaisie a déclaré à la VOA que le dynamisme de la main-d'œuvre malaisienne et ses compétences en anglais ont conduit à une croissance dans de nombreux domaines, semi-conducteurs, appareils médicaux, technologies et bien d'autres. Shobhan Das est la directrice exécutive de la Chambre de commerce américano-malaisienne.
Je pense que c'est vraiment positif. Nous constatons une croissance beaucoup plus importante dans différents secteurs. Et la Malaisie est considérée pour ses différents atouts dont nous n'avions même pas conscience.
Les analystes asiatiques estiment que la dynamique de la région ne devrait pas changer radicalement ou rapidement. Zach Cooper de l'American Institute.
Je pense que les arguments de Biden sont probablement ceux qui ont le plus de chances de l'emporter. Mais bien sûr, comme l'ont montré les nombreux chefs d'entreprise qui ont rencontré Xi Jinping, la Chine reste un marché important et, pour certains de ces entreprises, un centre de production important. Et cela ne va pas changer de sitôt.
Jeudi également, M. Biden a lancé un cadre économique pour ses 14 pays afin d'adoucir l'accord, tout en reconnaissant que le cadre économique indo-pacifique n'est pas tout à fait complet, les négociateurs ne sont pas parvenus à un consensus sur le pilier commercial crucial. Il a fait l'éloge du plan en évoquant un domaine dans lequel les États-Unis surpassent tous les concurrents, leur énorme capacité d'investissement privé et non pas gouvernemental.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les attaques attribuées aux colons juifs contre les Palestiniens se sont multipliées, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Dans le sud de la Cisjordanie, plus d'une douzaine de villages ont été détruits, des agriculteurs ont été expulsés de leurs terres et plus d'un millier de personnes ont été déplacées. Sur place, le reportage de Yann Bouchat de la VOA, le récit est de Jacques Aristide. «
Deux familles palestiniennes de la communauté d'éleveurs d'El Mafagara affirment avoir tout perdu quand un jour, des colons juifs vivant à proximité sont arrivés avec des fusils, des camions et un bulldozer pour tout raser en quelques minutes, selon elles. Mahmoud Hamamdé est le chef de cette communauté.
La première attaque a été menée contre ces maisons. Les colons sont venus habillés en militaire et ont commencé à tout attaquer et à tout détruire. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses de la part des soldats. Avant, nous recevions une lettre d'avertissement. Mais cette fois, les colons sont simplement arrivés en vêtements de soldats et ont tout détruit.
Hamamdé dit que sa famille vit dans les collines d'Hébron depuis des siècles, élevant des moutons et des vaches et cultivant des oliviers. Les colonies, ajoute-t-il, se rapprochent de plus en plus et depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, Hamamdé est d'avis que les choses sont hors de contrôle au vu des menaces et des violences.
Je me sens humilié, insulté, étouffé, si maltraité, non pas par les Juifs, parce que les Juifs, ce sont de bonnes personnes, mais par ces sionistes qui viennent de partout dans le monde, qui ne connaissaient ni religion, ni éthique.
D'après l'OCHA, l'Agence onusienne des affaires humanitaires, au moins 15 villages ont été détruits depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et plus d'un millier de personnes ont été déplacées. Le service de presse du gouvernement israélien et les forces de défense israéliennes n'ont pas réagi au nombre croissant d'attaques de colons juifs contre des agriculteurs palestiniens. Au cours de ces dernières semaines, le gouvernement israélien a commencé à distribuer des milliers de fusils et d'armes de poing aux civils vivant dans les zones frontalières et dans les colonies de Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir est le ministre de la Sécurité nationale d'Israël.
Nous allons d'un endroit à l'autre distribuant ces armes à feu. Cela sauve des vies. Chaque fusil, chaque pistolet que nous remettons avec la délivrance de permis peut sauver une famille. Chaque arme à feu, chaque fusil d'assaut peut sauver un immeuble résidentiel. Je dis aux citoyens d'Israël, armez-vous.
Dans ce village bédouin qui partage une clôture avec une colonie juive, la situation empire de jour en jour selon les habitants. Ils disent avoir été menacés de quitter la zone par les colons et vivre de manière assiégée. Tarek Ataline, un habitant du village d'Oum al-Kahir.
Cela fait deux semaines qu'ils sont arrivés. La milice des colons est entrée et a envahi la communauté d'une manière très horrible. Ils ont arrêté tous les jeunes, soit une dixième de la communauté, et nous ont interrogé de manière très violente ce que seuls les terroristes font.
Ces villageois disent qu'avant la guerre, ils appelaient la police israélienne pour résoudre tous les problèmes qu'ils avaient avec les colons voisins. Mais maintenant, ajoutent-ils, plus personne ne vient les aider.
Les entreprises du marché éthiopien de l'habillement traditionnel affirment que les vêtements moins chers fabriqués par les industriels chinois les poussent au chômage. Les détails avec Kennedy Abati, le récit est de Jenny Niwa.
Voici le marché de Shiromeda dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La plupart des boutiques vendent des vêtements traditionnels éthiopiens en coton tissé. Les commerçants disent qu'ils gagnaient bien leur vie jusqu'à ce que les entreprises chinoises commencent à produire des articles similaires en mousseline de soie. Meron Asra est propriétaire d'une boutique de vêtements traditionnels à Shiromeda. Elle affirme que la concurrence est déloyale.
Il n'y a pas de nouveaux acheteurs. À l'exception de certains de mes propres clients, les mousselines fabriquées en Chine ne peuvent pas remplacer nos vêtements traditionnels. Mais d'un point de vue économique, les gens se tournent vers les vêtements moins chers.
Jamil Taha Abdou tient une boutique à côté. Il affirme que les vêtements fabriqués en Chine nuisent au marché en raison de la différence de prix par rapport aux vêtements fabriqués à la main localement.
Ce sera 3 ou 4 fois moins cher. Nous ne pouvons pas rivaliser avec eux. Et les gens veulent dépenser là où il y a une réduction parce que la vie est un peu difficile maintenant.
Selon Jamil, les vêtements importés de Chine ont créé des conditions de concurrence inégales sur le marché. Mais pour rester dans les affaires, il dit qu'il a commencé à vendre des vêtements chinois également.
Nous avons passé tellement de temps sans dormir à concevoir nos produits, puis en une semaine, les produits chinois ont inondé le marché. Cela signifie que vous ne pouvez pas les concurrencer. Vous devenez donc prisonnier contre votre gré.
Ndacha Choubé, une cliente, explique que c'est les prix qui incitent les acheteurs à se tourner vers les vêtements chinois. Ici, elle a acheté un étela traditionnel, un vêtement en coton fait à la main et ressemblant à un foulard.
Le prix de la mousseline de soie chinoise est meilleur, mais la qualité des vêtements traditionnels éthiopiens est meilleure.
Birknesh Sugebo, un autre client, partage les sentiments d'Endashash.
Je suis venue ici pour acheter des vêtements traditionnels pour envoyer ailleurs, mais ils sont très chers. Les contrefaçons chinoises sont bon marché et de moins bonne qualité que les vêtements tissés à la main. Mais les gens achètent ces produits de contrefaçon parce qu'ils sont moins chers.
Certains chefs d'entreprise demandent au gouvernement de protéger les tisserands, les fabricants de vêtements traditionnels, les vendeurs et les autres Éthiopiens impliqués dans le marché des vêtements traditionnels.
Ce dimanche 19 novembre marque la journée mondiale des toilettes. Le manque de latrines est un problème de santé publique dans de nombreux pays africains. Dans l'état de Benue, au centre-nord du Nigeria, une femme construit des toilettes dans les zones rurales. Le reportage de Gilbert Tamba qui s'est rendu dans l'une des communautés.
La localité de Tarka est à 35 km de Makurdi, capitale de l'état de Benue. Tarka fait partie des districts chanceux qui ont accès à des latrines de qualité grâce à l'intervention de Orpi Nense ou Mama Sato, le nom de son ONG pour l'assainissement et l'hygiène des toilettes.
Pour sauver des vies, parce que se soulager à l'air libre, ce n'est pas bon. Je n'aime pas voir les excréments exposés partout. Avant, quand vous veniez dans cette communauté, vous n'aimeriez pas rester pour longtemps avec la mauvaise odeur partout. Mais aujourd'hui, vous pouvez venir ici et vous ne sentirez rien nulle part.
Avant, c'était une pratique courante pour les habitants d'aller en brousse ou derrière une palissade ou sous un arbre pour se satisfaire. Cela pouvait constituer une source de maladie. Mais depuis 2018, ce n'est plus le cas à Tarka. Ngewese Chikan, habitante de Tarka.
Ces toilettes sont bonnes. Avec peu d'eau, on peut les utiliser. Avant, nos enfants déféquaient dans l'enceinte de la cour et l'odeur gênait tout le monde. Nous aimons les toilettes Sato, car elles sont sans odeur.
Des femmes se souviennent de toutes les contraintes d'aller tous les matins ou tous les soirs pour trouver un endroit pour faire ses besoins à l'air libre avant la construction de ces toilettes.
Avant, nous utilisions des latrines et les latrines sont très mauvaises. Elles sont mauvaises et les mouches sont partout. Je n'apprécie pas ces latrines. Quand nous avons bénéficié de ces toilettes, je les ai préférées aux latrines.
À l'époque où je n'avais pas encore cette toilette, je creusais un trou derrière ma cour et quand mes enfants jouaient parfois, ils marchaient sur ce trou. Maintenant, je me sens mieux. Même dans ma cour, tout est propre. Mes enfants aussi utilisent ces toilettes.
Plus d'un millier de toilettes sont construites dans trois communautés où opère Orpi Nense. Sa démarche lui rapporte la satisfaction de protéger les habitants, car pour elle, utiliser les toilettes va empêcher les mouches et les animaux de propager les microbes dans les maisons. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, à Tarka, dans l'état de Benue.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur